Matière à penser,
une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos
avec Fabrice Hadjadj
et Galbric Drapé.
Aujourd'hui, sixième épisode de notre série sur les animaux, avec cette question comestible. Faut-il arrêter de manger de la viande ? Et un texte de Jocelyne Porcher, sociologue et directrice de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Notre alimentation carnée est fondée sur la tuerie, et une tuerie cachée, celle des abattoirs industriels, dont la seule vue pourrait dégoûter un grand nombre d'entre nous de manger à l'avenir de la viande. À côté de cette maltraitance honteuse, se pose un problème environnemental et économique. D'une part, la production d'un kilogramme de viande émet entre 5 et 10 fois plus de gaz à effet de serre qu'un kilogramme de céréales. D'autre part, dit-on, l'élevage emploie des terres agricoles qui pourraient servir à l'alimentation humaine. Cependant, la relation d'élevage fait partie de notre histoire, et les mythes les plus anciens, mais aussi la Bible, nous montrent l'importance de ce labeur commun et de l'acte de manger de la viande dans la formation de l'humanité. Le Sauveur lui-même se présente comme le bon pasteur, et à Pâques, il a lui-même mangé de l'agneau jusqu'à s'identifier à l'agneau immolé. Ne faut-il pas en conclure que le véganisme implique une rupture anthropologique aussi violente que le transhumanisme ? C'est ce que nous allons essayer de penser après avoir écouté la parole de Jocelyne Porcher.
Si les laudateurs du véganisme taisent leurs intentions de libérer les chevaux et les chiens, ils sont par contre beaucoup plus prolixes sur la nécessité de libérer les animaux de ferme. Quelle que soit la façon dont ils sont élevés, car bio ou pas bio, petit éleveur ou élevage intensif, la finalité est la même. Or, précisément, la finalité n'est pas du tout la même. La finalité des productions animales, industrielles et intensifiées, c'est le profit. Il n'y en a pas d'autre. Les animaux dans ces systèmes sont des choses. Leur existence est niée. Tout comme l'existence des salariés enfermés avec eux dans les usines. L'industrie des productions animales est fondée sur la violence et sur le déni de la vie. Ce qui est juste l'inverse en élevage, là où l'on élève les animaux. La finalité du travail dans ce monde-là, individuelle et collective, est de vivre avec les animaux, et pour cela de travailler avec eux, et donc de produire et de tirer un revenu de cette production, et donc in fine d'abattre les animaux, car dans un système de ressources finies, si des animaux naissent, d'autres doivent partir. Et nous devons manger tous les jours. Mais dans ce monde-là, on ne transforme pas de la matière animale. On donne la mort à des animaux comme on leur a donné la vie, avec respect. Ce qui est en jeu n'est donc pas de sortir les animaux de ferme de nos vies, mais de transformer les conditions de notre vie commune au travail. Que l'on soit omnivore ou végétarien, les animaux et nous-mêmes avons besoin d'un véritable élevage, d'un élevage paysan, de la part d'éleveurs libres. Car que mangerons-nous lorsque l'élevage aura disparu ? Du soja et de la viande in vitro. Avec qui vivrons-nous quand les chevaux et les chiens auront disparu ? Avec des robots. Coïncidence, les mêmes multinationales et en premier lieu les GAFA soutiennent l'agriculture cellulaire et le développement des robots. Coïncidence, les laudateurs du véganisme soutiennent aussi la viande in vitro. Pas pour eux-mêmes, bien sûr, mais pour nos concitoyens incapables de se passer de viande. Ainsi, comme de nombreuses personnes refusent de renoncer à leur dépendance à la viande, l'association PETA souhaite les aider à passer à une chair qui ne cause ni souffrance ni mort. Imposer une agriculture sans élevage, c'est donc ce sur quoi repose la collusion d'intérêts entre une start-up de la communication végane comme L214 et les start-up de l'agriculture cellulaire soutenues par les multinationales et par les fonds d'investissement les plus puissants. Au nom de la protection de la planète et de la défense des animaux, il s'agit bien d'exclure les animaux et de les remplacer par des substituts plus rentables.
Fabrice Hadjadj, que l'on soit omnivore ou végétarien, les animaux et nous-mêmes avons besoin d'un véritable élevage. Quel est le contexte de ce texte ?
Alors, ce texte vient d'abord de Jocelyne Porcher. Alors ici, on pourrait dire « nomen est omen », le nom est un destin. C'est vrai que Jocelyne Porcher n'était pas au départ du tout destinée à l'élevage. Elle a eu une formation de secrétaire dans une grande entreprise. Et puis, à 25 ans, elle trouve un travail dans une PME et elle part à la campagne. Et c'est là qu'à la campagne, parce qu'elle a un jardin, eh bien, elle installe un potager, elle monte une basse-cour, elle va commencer à soigner, à élever, à plumer, à dépouiller des animaux. Et comme elle le dit elle-même, pour manger, c'était pas pour manger du lapin, du poulet, de l'oie à Noël. Voilà, là, il fallait les faire naître. Et puis, c'était pas tuer du lapin, mais mes lapins, mes poulets, mes oies. Et donc, elle découvre l'élevage par le bas, je dirais, à partir du jardin près de chez elle. Puis, elle va travailler avec des chèvres, elle va acquérir des brebis laitières corses, elle aménage une bergerie. Puis, peu à peu, elle se dit que ce serait bien d'avoir vraiment une formation dans le cadre de l'élevage. Et là, ça va être une surprise parce que cette formation, ça n'est plus du tout la même chose que ce qu'elle faisait. Elle passe de l'élevage à ce qu'on appelle la zootechnie, ce qu'elle appellera elle-même les productions animales dans ce texte. Donc, ce qu'on peut appeler l'élevage, mais est-ce que c'est encore de l'élevage? Parce qu'on voit bien qu'on n'élève plus vraiment les animaux, d'une certaine façon, mais ce qu'on appelle l'élevage industriel, à côté de la question des abattoirs industriels. Et en Bretagne, elle va travailler dans une porcherie industrielle. Elle dira qu'elle travaille avec des éleveurs qui, par ailleurs, sont des gens qu'elle aime bien, mais qui n'avaient que le mot « argent » à la bouche. Et ces mêmes éleveurs qui battaient les animaux pour les déplacer, les traiter d'enculés ou de connards, qui se prenaient pour l'élite et qui ne semblaient espérer de la vie que de changer de voiture. Et donc, tout d'un coup, elle est dans un autre monde et elle en est stupéfaite. Et petit à petit, elle va se mettre à réfléchir sur cette situation de l'élevage aujourd'hui, avec une manière de distinguer nettement l'élevage paysan et les productions animales industrielles. Et elle va devenir, ça c'est extraordinaire, elle va se former pour devenir sociologue. Moi je l'ai découverte à partir d'un magnifique texte qui s'intitule « Vivre avec les animaux », qui a été publié aux éditions de La Découverte dans la collection du MOS, le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. Et j'ai été, je dois dire, subjugué par la pensée de Jocelyne Porcher, qui est une vraie pensée de quelqu'un qui a un itinéraire, voilà, de secrétaire à éleveur et d'éleveur à sociologue qui réfléchit à la réalité de l'élevage aujourd'hui et à son importance pour l'humanité. Une manière de faire de la philosophie à partir d'une expérience très très concrète. Donc vous voyez, on est très loin ici des viandards qui achètent leur viande pour barbecue sous cellophane et de l'autre côté du véganisme qui est très loin de la situation d'élevage puisqu'il le condamne déjà par d'entrée de jeu d'une certaine façon puisqu'on ne doit pas manger de viande, mais qui eux ont un rapport à l'animal qui est surdéterminé par l'animal de compagnie. C'est pour ça qu'elle commence son texte en disant, voilà, vous voulez libérer les animaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire abolir l'élevage à la ferme, les animaux de ferme, parce que là, on les exploite. Mais attention, il ne faut pas toucher éventuellement aux chevaux, aux chiens, aux chats, aux animaux de compagnie. Donc, vous voyez, une sorte de surdétermination dans le véganisme de l'animal de compagnie et de dévalorisation de l'animal de ferme qui, lui, engage une relation particulière, et c'est ça qui intéresse Jocelyne Porcher, une relation de travail. L'animal de ferme est un animal qui est un partenaire de travail et donc on est dans un type de situation très particulier qui n'existe pas, au fond, chez les citadins. D'ailleurs, dans l'histoire de Jocelyne Porcher, il va falloir quitter la ville pour qu'elle fasse la découverte de cette possibilité-là. Et nous, vous voyez, nous sommes dans cette alternative entre une viande qu'on acquiert par la production animale industrielle et de l'autre côté, une proximité avec l'animal qui est seulement celle de l'animal de compagnie. Et vous voyez, c'est ça, d'une certaine façon, qui fausse la donne dès le départ et qui fait que nous avons du mal à penser la réalité de la situation.
Fabrice Hadjadj, Jocelyne Porcher dit au milieu de son texte que, en fait, la finalité n'est pas du tout la même, que ce soit dans un élevage industriel ou dans un élevage paysan. Et cependant, l'acte lui-même de tuer demeure le même.
Oui, alors c'est ça qui est d'abord un problème général. Il y a quelque chose au centre de cette réflexion qui est l'idée de tuer avec respect. Alors ça, c'est très étonnant. Est-ce qu'on peut tuer avec respect un être humain? Vous voyez, c'est d'ailleurs le fantasme de l'euthanasie. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de partisans du véganisme qui sont des partisans de l'euthanasie humaine, par ailleurs. Bon, donc, ils ont l'idée de tuer avec respect quand il s'agit de l'homme, mais pour la bête, ce n'est pas possible. Donc là, il y a déjà ce problème-là. Qu'est-ce que ça veut dire, tuer avec respect? Et puis la deuxième chose, c'est de dire, ça n'est pas du tout la même chose. Et ça n'est pas la même chose à partir, et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on voit que Jocelyne Porcher redécouvre des catégories philosophiques fondamentales, c'est-à-dire à partir de la notion de finalité. La finalité, ce que l'on vise ultimement, c'est ça qui va changer la totalité des actes qu'on va mettre en place. Qu'est-ce qui est profondément visé? Or, vous voyez, on pourrait dire que dans un cas, ce qui est visé, c'est d'abord la production de viande et d'une viande rentable, c'est-à-dire la production d'argent à travers la production de viande, dont on est face à une marchandise comestible, et ce que l'on considère, c'est uniquement la marchandise. Et dès lors, les bêtes entrent dans un système où la relation comme telle à la bête disparaît. On est dans une zootechnie où le but, c'est de produire de la viande et non pas d'entrer en relation avec la bête. Dans le cas de l'élevage paysan, mais dans le cas aussi, je ne sais pas, parce qu'on parle d'élevage, mais un berger, par exemple, c'est un éleveur, mais c'est un éleveur qui vit au milieu de ses bêtes, qui va faire une transhumance, qui va soigner ses brebis. Et alors, ici se pose une question majeure. Est-ce que on élève les brebis pour les manger et que la finalité, c'est juste la viande? Ou est-ce qu'on élève les brebis pour les manger, mais en fait, on mange peut-être de sa brebis, ou de sa chèvre, ou de son bœuf, mais on mange pour accomplir cet acte qui est d'entrer en relation avec eux, d'accomplir cette relation de travail qui est la relation d'élevage. Et vous voyez, c'est là où il y a une réflexion extrêmement profonde qui fait que le Christ peut s'identifier à un pasteur. C'était une remarque que faisait déjà Trasimaque dans la République de Platon. Il s'opposait à Socrate qui dit « on peut penser le bon gouvernant comme un bon berger ». Et Trasimaque dit « ah oui, bah, le berger, ouais, c'est bien, bah, ouais, le bon gouvernant, qu'est-ce qu'il veut ?» Il nous fait engraisser, il nous zigouille et après il profite parce qu'il veut manger de la viande. Et Socrate dit non. Le bon berger ne vise pas d'abord la production de la viande, mais vise d'abord le soin de la bête. Et on voit bien que dans les paraboles du bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il protège les bêtes contre le loup, il soigne les brebis, il va chercher la brebis perdue. Ce n'est pas des images d'abattage, c'est des images de soin. Donc, qu'est-ce qui est plus humain? Est-ce que c'est manger de la viande? Ça, le loup va le faire. Est-ce que c'est manger Blanchette? Oui, le loup va le faire aussi bien que nous. Mais ce que ne fait pas le loup, c'est entrer dans cette relation avec la chèvre de M. Seguin, dont il va prendre le lait ou dont il mangera peut-être la viande. Donc on pourrait dire, mais qu'est-ce qui se passe finalement, Monsieur Seguin? Imaginez que Monsieur Seguin n'ait pas été, en tout cas la chèvre de Monsieur Seguin ne soit pas partie dans la montagne et qu'elle n'ait pas été mangée par le loup. Elle eût été mangée par Monsieur Seguin. Donc, qu'est-ce que ça change dans l'histoire? Et Monsieur Seguin n'est-il pas un loup peut-être même encore plus pervers, puisqu'il ne cesse de produire? Vous voyez, certains ont comparé l'élevage, hein, d'ailleurs, à, bon, on peut se poser la question, mais vous savez, à des camps de concentration où non seulement on tuerait les juifs, mais on produirait des juifs pour pouvoir les tuer sans fin. Vous voyez, bon, les comparaisons ici sont un peu douteuses, mais bon. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut s'interroger. Or, vous voyez, non. Monsieur Seguin, bien sûr, va manger de la viande pour peut-être pour vivre, ou en tout cas, il va boire le lait de sa chèvre, c'est pour ça qu'il l'élève. Mais en même temps, il boit du lait de sa chèvre, pas simplement pour se sustenter, parce qu'il refait ses forces pour accomplir des actes proprement humains, qui sont les actes, justement, de soins portés à une autre espèce que la nôtre. Et vous voyez, c'est là où il y a une force, l'élevage paysan. Est-ce qu'il est idéalisé par... Il y a des lieux intermédiaires, hein, entre la production industrielle et l'élevage paysan. Il y a des paysans aussi qui sont d'abord dans la rentabilité. Mais au fond, ce qui le spécifie, ce qui le rend original, c'est qu'il y a cette relation de travail avec les animaux et que la finalité n'est donc pas la même. Et le paysan qui a donné un nom à sa bête, qui l'a élevée jusqu'au bout et qui arrive au moment de l'abattage, parce qu'elle est partisane, Jocelyne Borchet, de l'abattage à la ferme, qui devient de plus en plus difficile en raison de certaines normes sanitaires, etc. Mais c'est un acte où on voit, voilà, ça, c'est un autre sujet, mais on voit que notre condition, une condition marquée par la mort, dramatique, parce que la bête mourra de toute façon, quoi qu'il en soit. Cette bête étant une bête d'élevage, elle n'existerait pas si elle n'était pas élevée. Et donc, c'est une manière de vivre jusqu'au bout avec les animaux.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, faut-il arrêter de manger de la viande? Fabrice Hadjadj, Jocelyne Porcher montre bien dans ce texte que dans l'élevage industriel, en niant l'animal, on nie aussi l'humain, on nie le travailleur, mais aussi on produit une viande de moins bonne qualité et donc on ne respecte pas aussi celui qui va la consommer. Donc en niant la vie de l'animal, on nie aussi la vie de l'humain. Est-ce que c'est aussi un lieu, l'élevage qui soit industriel ou paysan, est-ce que c'est aussi un lieu où s'exprime la solidarité entre l'homme et l'animal?
Oui, c'est un point fondamental. D'abord, elle montre, Jocelyne Porcher, qu'il y a un combat à mener. Et on voit bien que le combat, elle en fait une lecture qui est un combat de justice sociale généralisée et qui va s'étendre finalement aux autres animaux. Donc, elle est dans une logique de ce que le pape François appelle l'écologie intégrale, c'est-à-dire qui associe la justice sociale aux soins portés à l'environnement. Et on voit bien qu'il y a des conditions de travail qui sont atroces pour les hommes. Et finalement, l'élevage industriel, enfin les productions animales et les abattoirs industriels reproduisent des conditions qui sont celles d'un travail aliéné. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il y a un événement simultané. Les premiers abattoirs de Chicago... c'est aussi la première chaîne, le premier travail à la chaîne. Donc, ce travail à la chaîne, Ford va le découvrir. John Ford va Henry Ford, pardon, John Ford, c'est le réalisateur. Henry Ford, que je préfère d'ailleurs. Henry Ford va découvrir ces abattoirs de Chicago et il va le prendre comme modèle d'une production optimisée. Donc, il y a un lien entre l'invention de la chaîne de montage, la taylorisation du travail, l'aliénation de l'ouvrier au profit d'un travail sans réflexion, sans mécanique, et l'apparition de l'abattage industriel. Donc, ça, c'est dans les faits. La deuxième chose, c'est que il y a un problème humain quantitatif aussi, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut manger de la viande tous les jours? Moi, je continue de penser qu'autrefois, les abattoirs étaient des annexes des temples. Et dans les villages, oui, on abattait la bête, c'était un acte collectif, et c'était le moment d'une fête. Donc, il faut absolument faire en sorte que l'abattage ne soit pas un acte anodin, parce que la mise à mort d'un être vivant, sensible, et d'un être qui est proche de nous, la bête d'élevage, renvoie à quelque chose qui est très profond, qui est notre propre mort. Les chasseurs le disent, hein, qu'au fond, enfin, les vrais bons chasseurs, je veux dire, même si, sans rentrer dans le sketch des inconnus, hein, un bon chasseur, c'est ceci, un mauvais chasseur, c'est... Mais la question du chasseur qui pourchassant l'animal, le suivant à la trace, non seulement un rapport très particulier à la nature, de proximité, mais enfin d'investissement d'une certaine façon de la nature, pas lui de la nature, mais de la nature en lui, il retrouve quelque chose d'animal, de prédateur, mais surtout, il voit une image de son propre destin. Voilà, ça c'est... Et donc oui, il faut manger, l'abattage industriel, il y a des questions aussi quantitatives, il faut pas le nier. Et en dernier lieu, oui, une viande de meilleure qualité, la question que vous posiez au début sur le fait que les terres agricoles étaient confisquées par l'élevage, ce n'est pas tout à fait vrai. Comme vous le savez, on distingue un pâturage et une terre arable. Alors la plupart, vous voyez, ce n'est pas les mêmes terres sur lesquelles on peut cultiver des céréales et les terres où broutent les bêtes. Hein. Ce n'est pas du tout les mêmes terres. Donc il faut faire attention à ne pas entrer dans des confusions. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la conversion de rendement, vous savez, où le fait que les protéines végétales, enfin, le végétal, nous n'en produisons pas autant de protéines que ces bêtes qui sont faites qui sont des herbivores, qui produisent des protéines. Donc, en fait, il y a une qualité, effectivement, de nourriture qui est produite pour l'homme à travers l'élevage et une certaine économie qui est peut-être plus juste. Mais il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel, moi je comprends très bien que quelqu'un puisse se dire, bah, je préfère être végétarien parce qu'il y a cette maltraitance.
Fabrice Hadjadj, est-ce que finalement le combat, ce n'est pas celui contre le capitalisme qui nourrit ces deux extrêmes, à la fois la super-industrialisation de l'élevage et le mouvement végan?
Exactement, c'est l'arrière-plan de la pensée de Jocelyne Porcher. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ces citadins qui sont des consommateurs et qui fantasment des animaux de Bambi, quoi. Et de l'autre côté, effectivement, ce monde de l'hyperproduction. Et effectivement, c'est un monde où on a marginalisé le rapport aux bêtes et on fantasme de l'autre côté un rapport idéal. Je pense que ce qui est très fort dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle parle de cette association PETA. Donc ça veut dire, on n'a pas dit ce que voulait dire PETA ici. Donc, People for the Ethical Treatment of Animals. Donc des gens associés pour le traitement éthique des animaux. Or, c'est vrai que cette association finance la viande in vitro, c'est-à-dire on fait des prélèvements, vous voyez, uniquement sanguins sur des animaux et on va faire un développement cellulaire dans une boîte de pétri, vous voyez, sous verre, quoi, hein, pour faire des choses de viande et on va développer comme cela sans meurtrir des bêtes. Et on voit bien que tout d'un coup, la logique transhumaniste de la viande de synthèse, donc de l'homme de synthèse, des images de synthèse, etc., se retrouve avec le véganisme. Et on peut craindre qu'effectivement le véganisme soit un rapport au monde qui est un rapport où la nature est d'abord celle des fonds d'écran, finalement, donc d'où le lien. Et c'est pour ça que vous avez absolument raison de dire qu'il y a dans le véganisme et dans le transhumanisme une rupture anthropologique majeure. Alors, ce qu'on pourrait marquer malgré tout, c'est la différence entre ces deux ruptures. On peut être un transhumaniste végan, hein, il y en a beaucoup. On prend des pilules de synthèse. De toute façon, ce qu'on veut, c'est éventuellement être un robot câblé, branché, donc on se nourrira que d'électricité ou de batteries nucléaires. Mais donc on se nourrit plus de bêtes. Il y a vraiment une solidarité réelle entre on en a déjà parlé, entre la fascination pour le robot et la fascination pour le bonobo. Enfin, il peut y avoir des solidarités. Cependant, il me semble quand même que le véganisme vient nous poser une question véritable. Et qu'on ne peut pas continuer comme cela avec l'abattage industriel et la maltraitance des bêtes. C'est une vraie question qui nous est posée. Et je crois qu'il faut accueillir la question et ne pas la rejeter parce que la réponse est exagérée.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Jocelyne Porcher, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.